Vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
Bonne fin de journée, vous écoutez RTL Soir, il est quasiment 18h40, donc quasiment 17h40 à Windsor, et on va donc défaire le monde, ou plutôt le Royaume-Uni maintenant, avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier, la Queen autrement, jusqu'à 19h. On va vous raconter tout ce que vous n'avez pas entendu en 12 jours, parce qu'on a encore de quoi vous surprendre. Le menu, Cyprien.
Ce soir, on défait les funérailles royales avec le duc de Norfolk. Ça fait 350 ans que sa famille organise les obsèques de la couronne. Est-ce que c'est un job à plein temps? Planche-t-il déjà sur le prochain enterrement? Vous allez tout savoir. Au menu également, des bracelets en papier devenus hors de prix. Une plongée dans l'histoire des plus grands enterrements de tous les temps. Et l'Inde qui fait rouler la famille royale. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et on commence avec The Sound of the Day.
Les étapes du protocole London Bridge, minutieusement préparées depuis les années 60.
Chaque geste est millimétré.
Oui, vous l'avez lu, vu, entendu, tout a été organisé, calculé, et tout ça par un homme qui a forcément passé une journée un peu sous pression aujourd'hui. C'est le duc de Norfolk. Depuis 350 ans, sa famille, qui est l'une des plus anciennes du royaume, est chargée d'organiser les funérailles royales. Alors avec l'équipe dont défait le monde, on a choisi de s'intéresser de plus près à ce monsieur et à cette étonnante charge héréditaire.
Oui, organiser les obsèques du roi ou de la reine, est-ce que c'est un job à plein temps? Est-il déjà en train de préparer celle de Charles III? Et en cas de mort subite d'un membre de la famille royale, il a-t-il un plan?
Pour tout comprendre, on a rencontré Pauline Sommelet, elle est chef de service au magazine Point de Vue. Et alors, je vous rassure tout de suite, Julien, organiser un enterrement tous les 70 ans, c'est pas le seul job du duc de Norfolk.
C'est quelqu'un qui n'est pas comme vous et moi, mais qui a eu un métier, qui a étudié à Oxford, qui a dirigé une entreprise notamment de gaz liquide, qui a hérité de ce titre de duc de Norfolk et de comte maréchal d'Angleterre dans sa famille depuis plusieurs siècles. Il l'a reçu, lui, précisément en 1975 de son cousin qui n'avait pas eu de fille et qui lui a donc transmis. Et il va s'occuper désormais du couronnement, puisque c'est une charge qui lui revient, donc le couronnement de Charles III, très probablement en juin 2023.
Et tous les ans, il s'occupe aussi de la cérémonie d'ouverture solennelle du Parlement à Westminster.
Est-ce qu'il a déjà commencé à plancher sur les futurs enterrements royaux qui pourraient arriver?
Eh hein. Ben oui, figurez-vous. Il faut rappeler que Charles III a déjà 73 ans. Alors, c'est ouais, pas si vieux, hein. Et on lui souhaite le plus tard possible, quand même. Mais évidemment, quand même.
Les plans, les opérations sont préparés avec beaucoup plus de précision quand il s'agit de membres très âgés. Donc, la reine, évidemment, avait son plan London Bridge. Mais il y a déjà un plan qui existe pour le roi Charles III. C'est un plan qui porte le nom de code Menai Bridge, du nom d'un pont qui se trouve au Pays de Galles. Est-ce qu'il y a déjà des plans, très probablement, pour le prince William et d'autres membres? Oui, mais d'abord, on ne souhaite pas que ces opérations aient à être déclenchées. Et si c'était le cas, comme ça avait été le cas de la princesse Diana, eh bien, on s'était calé à l'époque sur le plan qui avait été préparé pour la reine-mère, qui, elle, était déjà âgée, mais qui a survécu 7 ans à la princesse Diana.
Donc, il y a des plans de secours, si jamais, par exemple, demain, on ne le souhaite pas, évidemment, dans un accident d'avion ou de voiture, William venait à mourir.
On se baserait très probablement sur ce qui est prévu pour Charles, mais en l'adaptant, puisqu'il ne serait que prince héritier et pas régnant.
Donc, le cas échéant, c'est encore le duc de Norfolk qui serait à la manœuvre.
Oui, alors comme il a déjà 65 ans, le duc de Norfolk, son fils est dans les starting blocks, figurez-vous.
Il a des enfants et lui, il a un fils aîné qui prendra donc sa suite à sa mort. Le savoir-faire se transmet finalement, comme dans beaucoup de métiers de cet ordre, de métier de tradition, de transmission de génération en génération.
Et c'est rémunéré ou pas?
Alors ça, je ne pense pas, non. On fait ça à titre gracieux pour le service de sa très gracieuse majesté.
Ah oui, la tradition, vous savez, c'est désintéressé. Hein. On a quand même posé la question, on ne sait jamais.
Bénévole, le duc de Norfolk. Tu on va retrouver à Londres notre invité fil rouge du magazine Point de Vue, Thomas Pernet. Thomas, vous l'avez vu aujourd'hui, le duc de Norfolk? Est-ce qu'il avait une place particulière pendant la cérémonie?
Alors oui, il était présent, il y avait tellement de monde, je ne l'ai pas vu moi personnellement, mais en effet, ça nous paraît étonnant qu'il puisse y avoir des charges comme ça, parce que c'est des charges d'ancien régime, comme il y avait la cour de Louis XIV en France, et pourtant ça existe, et c'est aussi ça tout le charme de la monarchie britannique, ces lords, ces pères du royaume qui finalement aident au bon fonctionnement de la monarchie, parce que la monarchie c'est une mécanique bien huilée, mais pour qu'elle fonctionne cette mécanique, il faut bien des petits soldats qui mettent de l'huile.
Donc vous nous confirmez qu'il a déjà tout prévu avec Charles au cas où?
Ah, je vous confirme que tout est prévu. Et en effet, ça peut paraître étonnant ou un peu glauque. Mais oui, tout doit être prévu. Et tant mieux. Parce que vous imaginez, si demain le roi meurt et que rien n'est prévu, je pense que quand même, il y a quelques personnes à Buckingham qui vont passer un sale quart d'heure. Donc, il vaut mieux que tout soit prévu.
On est d'accord. Restez avec nous, Thomas.
Under the radar.
Allez, on défait maintenant l'info passée effectivement sous les radars.
Alors, dans la série Tout se vend, tout s'achète et vive la spéculation, vous avez dégoté un objet assez inattendu, Laurent.
Oui, des bracelets en papier coloré qui se revendent une petite fortune sur Internet. Vous savez, ceux qui étaient distribués aux personnes dans la longue file d'attente pour se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II. Un précieux sésame qui permettait de s'absenter pour se restaurer ou aller aux toilettes sans perdre sa place. Eh bien, figurez-vous qu'après usage, certains bracelets ont été mis en vente rapidement sur eBay et d'autres plateformes pour plusieurs milliers d'euros.
Mais alors, c'est-à-dire, ça coûte combien ? Parce que si j'ai envie de m'en procurer un par folie ou par passion pour la famille royale, ou pour l'offrir à Julien.
C'est bien
votre genre. Votre carte bleue va quand même chauffer Cyprien. Les enchères montent par exemple à 2550 livres sterling, soit près de 3000 euros. L'un des vendeurs était même très optimiste avec, pour un bracelet du premier jour de la file d'attente, près de 25 000 euros, mais il a vite enlevé son annonce, faut pas exagérer. Et vous pouvez en trouver, allez, un prix plus faible, 460 euros, mais ça fait cher tout de même. Le bracelet coloré inutilisable. Et sur une autre annonce, il faut saluer ce geste commerçant. Un vendeur propose d'envoyer en plus deux journaux collectés le jour même à Westminster ou des frais de port gratuits, c'est cadeau. Mais de toute façon, eBay a de son côté sifflé la fin de la récré en déclarant qu'il retirait les annonces. Des articles, je cite, qui vont à l'encontre de nos règles. En attendant, tout est bon apparemment pour se faire de l'argent.
Effectivement, Thomas, je crois que vous avez fait la queue, vous. Donc vous avez forcément un bracelet, vous n'avez pas à le revendre, vous avez gardé. Hein.
Je vais vous faire une confession, j'en ai même deux. Je vais pas vous dire pourquoi, enfin ou plutôt si, je vais vous dire pourquoi. La personne qui les distribue s'est trompée, m'en a donné deux. Donc j'en ai un que j'ai accroché à mon poignet et j'en ai un autre que j'ai gardé dans ma poche et donc je vous le vends 10 000 euros. Voilà, vous allez savoir dans la rédaction de RTL.
C'est la moyenne.
Qui le souhaite, mais n'hésitez pas, comme ça je vais m'arrêter de travailler pendant quelques mois et partir au Bahamas.
Sympa le partenariat avec Point de Vue. Merci.
Allez, petite pause, on défait le monde. Spécial royauté se poursuit dans RTL Soir. Est-ce qu'on a vraiment assisté à la mi-journée à des funérailles, à l'écho inédit, d'une ampleur inédite? Et on va s'interroger, surtout on va se plonger dans les archives et les livres d'histoire. À tout de suite.
Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
18h49, on défait toujours le monde dans RTL Soir. Et comme tous les soirs, même lorsque c'est une spéciale royauté, spéciale queen, place au winner-loser et Isabelle a tranché.
Oui, parce qu'Isabelle est férue d'histoire et elle s'est plongée dans les archives avec cette question. Les funérailles de la reine sont-elles les plus grandes funérailles jamais organisées? En d'autres termes, winner des funérailles ou pas, la reine Isabelle?
Bah écoutez, la dernière fois qu'on a vu les Anglais aussi bouleversés, c'était il y a 25 ans, bien sûr, hein, pour les obsèques de Diana. Alors, c'est tentant de faire le match. Diana, 2,5 milliards de téléspectateurs. Elisabeth, 4 milliards pour ce qu'on en sait. La moitié de la planète devant la télé. Victoire de la Queen par KO. Sauf que ça n'a pas grand sens, en fait, de comparer les funérailles d'une époque à l'autre, ou d'ailleurs d'un pays à l'autre. Ce qui est certain, c'est que certaines cérémonies ont marqué plus que d'autres. Alors, les obsèques de Diana, on s'en souvient. On se souvient des deux petits princes qui ont suivi le cercueil de leur mère sur un kilomètre pour des enfants. C'était terrible. Et puis, on se souvient forcément de la bande-son. Dans Westminster, Elton John. D'ailleurs, c'était une cérémonie très paillette. On n'avait jamais vu ça. George Michael était là aussi, Luciano Pavarotti, Tom Cruise, Tom Hanks, Steven Spielberg. 1 million de personnes dans les rues de Londres. Et ce n'était même pas des funérailles d'État comme aujourd'hui. En fait, les dernières funérailles d'État, c'était Churchill. C'était en 65, avec là aussi une file d'attente monstre pour lui rendre hommage.
Elle était très importante pour le pays. Vous savez, c'est comme De Gaulle dans votre pays. Hein, c'est la même chose.
Comme De Gaulle, bah pas tout à fait en fait, parce que Churchill, figurez-vous, n'avait pas prévu d'inviter le général à ses funérailles. C'est le duc de Norfolk l'époque,
encore
en parler, qui l'a convaincu d'inviter quand même le général De Gaulle. À l'arrivée, 112 pays représentés aux funérailles de Churchill, c'était un record à l'époque. Deux salles, deux ambiances pour sa propre mort. Justement, De Gaulle avait été très clair, pas d'obsèques nationales, juste une cérémonie toute simple à colomber les deux églises. Et du coup, c'est inédit dans l'histoire, des dizaines de dirigeants, dont Nixon par exemple, se sont retrouvés à Notre-Dame pour une messe. Sans cercueil. Voilà, pas de cercueil non plus pour Gandhi. En 1948, le corps du Mahatma a été exposé, porté, incinéré sur un bûcher. 2 millions d'Indiens se sont pressés sur les bords du Gange.
Foule pathétique, parvenue au dernier degré de l'émotion et prête à toutes les frénésies, à tous les sacrifices, comme à toutes les violences. ainsi dans le feu d'un bûcher.
Gandhi, mort, assassiné, tué par balle, comme Kennedy plus tard en 1963. Et de ces funérailles-là, eh bien, il nous reste une image, celle de Jackie Kennedy.
Elle marche seule, loin des autres, avec ses deux enfants, Caroline et John Junior, que son père appelait John John.
Et le petit John John qui fait le salut militaire là, avec sa toute petite main, l'image est restée.
Ouais, vous nous parliez de Churchill tout à l'heure avec 112 nations représentées à ses funérailles. C'est lui qui a le record ou il y en a qui font mieux quand même?
Ah non, il y a eu mieux. Il y a eu mieux, il y a eu un prix Nobel de la paix. Nelson Mandela, en 2013, premier président noir de la nation arc-en-ciel. Le monde entier était représenté pour lui rendre hommage dans le stade de Soweto, mais le stade lui-même n'était pas plein. La foule, on la trouvera en fait au bord des routes pour le dernier voyage de Mandela jusqu'à son village natal. Il y avait foule aussi sur la place Saint-Pierre de Rome pour les funérailles de Jean-Paul II, 1 million de fidèles. Et là aussi, des dignitaires du monde entier. Pour représenter le Royaume-Uni, il y avait Charles, monsieur pas de chance.
Aujourd'hui, le prince Charles aurait dû assister à un mariage, le sien. Ce sera donc un enterrement. Il a reporté à demain ses noces avec Camilla, mais a malencontreusement serré la main du président zimbabwéen Mugabe en froid notoire avec le gouvernement britannique.
Voilà, pas de mariage, une bourde, moi je dis, vive le roi.
Ça interroge quand même cette archive. Thomas Pernet, tiens, on vous retrouve à Londres du magazine Point de Vue. Il a révisé sa diplomatie, Charles, il est prêt là?
Oui, je pense qu'il a eu le temps de le faire. C'est vrai que le roi Charles est connu pour ses gaffes, surtout pour ses prises de parole. Il a agacé pendant des décennies, notamment les premiers ministres, en donnant des petits mémos. Il y a ce mot célèbre de Margaret Thatcher qui lui aurait dit un jour « Je gouverne, sœur, pas vous », le ramenant un peu à sa place. Je pense que maintenant, il a compris le job. Hein. Le job, c'est aussi de savoir se taire et il va devoir le faire.
Allez, restez avec nous parce que vous allez devoir arbitrer le match.
Oh,
les infos pour briller.
Le match des infos pour briller au dîner.
Alors ça, c'est tous les soirs. C'est le duel Isabelle face à Laurent. Qui a ce soir la meilleure info pour briller au dîner?
Et c'est très serré, c'est tendu. Isabelle mène 7-5 depuis le début de saison. Et ce soir, c'est Battle Royale, puisqu'il y a deux infos pour briller concernant la couronne britannique. Sir Laurent, c'est à vous.
Alors, vous l'avez peut-être vu sur les images aujourd'hui, le véhicule utilisé pour transporter le cercueil de la reine Elisabeth II était un corbillard de la marque Jaguar. Toute la famille royale se balade aussi en Land Rover depuis 10 jours. Célèbre, mythique constructeur britannique, la fierté d'un peuple. Sauf que depuis 2008, Jaguar et Land Rover sont devenus Jaguar Land Rover, une filiale de Tata Motors, une société automobile indienne. Ah. Et vous voyez le rapprochement, l'Inde, ancienne colonie britannique, aura donc fourni la voiture qui aura transporté le cercueil d'Elisabeth II.
Ça, c'est une bonne info pour briller ce soir au dîner. Est-ce que Isabelle peut rivaliser?
Je ne suis pas sûre.
Ah ben si, Queen Isabelle s'appuie une nouvelle fois sur l'histoire pour briller, elle adore ça.
Voilà, moi, je vais vous parler d'une autre reine, la reine Victoria, qui est morte en 1901 et qui restera à jamais un modèle unique. Il n'y aura plus jamais une autre reine Victoria parce que dans ses dernières volontés, sa majesté a décidé que plus personne ne pourrait prendre ce nom après elle. Façon de dire, je suis exceptionnelle et j'entends bien le rester. Son testament précisait aussi qu'elle voulait être enterrée avec la robe de chambre de son défunt mari Albert, qu'elle a aimé au-delà de tout. Elle a porté le deuil pendant 40 ans.
Alors, je ne vais pas arbitrer ce soir. On va laisser le spécialiste de la royauté choisir le vainqueur, notre invité fil rouge Thomas Pernet. Vous êtes plus Tata Motors ou Victoria ce soir pour briller au dîner, cher Thomas?
Oh là là, c'est difficile, hein. Franchement, chez RTL, vous savez quand même me mettre dans de beaux draps sans faire de jeu de mots avec la robe de chambre de Victoria. Pardon Isabelle, mais j'adore la revanche de l'Inde et je vais choisir Laurent. En plus, je crois que vous menez, donc ce sera un match équitable.
Exactement.
Laurent, vous êtes mon héros aujourd'hui, c'est votre info qui me permettra de briller.
7-6 pour Laurent depuis le début de la saison. C'est un peu la remontada.
Ah,
hein,
complètement.
Il était mal parti.
Il me talonne.
C'est un beau match. Vous savez que les gens en parlent. Hein.
C'est
on nous en parle sur les réseaux sociaux. On en parle chez Isabelle beaucoup.
Au café le matin, dans la rue,
dans la rédaction.
C'est la raison d'être de RTL Soir, ce match. Évidemment. Merci mille fois Thomas Pernet, vous le spécialiste des têtes couronnées, d'avoir passé un petit moment avec nous sur RTL ce soir pour nous éclairer. Merci. Allez vous reposer. Je crois que vous n'avez pas beaucoup dormi ces dernières heures. RTL Soir, ça continue. Dans quelques secondes, il y aura bien entendu votre journal La Météo de Louis Baudin. Alors évidemment, on va repartir au Royaume-Uni, aller rejoindre notre envoyé spécial à Windsor. On va aussi s'intéresser, ça va vous intéresser, cher Cyprien, la cascade de blessures chez les Bleus.
Ah bah c'est l'hécatombe.
À 2 mois du Mondial. Et puis on va partir aussi au procès de l'accident entre un train et un car scolaire à Mias. Première journée très très émouvante. Voilà, ce sera le journal de 19h juste après ça et le temps avec Louis Baudin.
On défait le monde.
Julien Cellier, Cyprien Signy.